C'est donc Mathieu Laurent pour le journal. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Et en ouverture de ce journal, Julie, nous parlerons de ce mini-sommet en cours à Bruxelles. Accueillir dignement celles et ceux qui fuient la guerre et la misère économique, voilà qui est conforme aux valeurs européennes. Et pourtant, aucun accord attendu à Bruxelles où l'Europe, moins le groupe de Visegrad, échange, histoire de ne pas sombrer dans de redoutables recroquevillements en pleine crise. Les combats s'intensifient dans le sud-ouest de la Syrie. Damas veut reconquérir la province de Dera, précision de Beyrouth de Marwaman. Invité de cette édition, le chercheur Fabrice Balanche. Accusation de fraude lors du premier tour de la présidentielle turque. Le dépouillement a commencé il y a une bonne heure. Enfin, les 2 millions d'habitants de Gaza souffrent de détresse psychologique. Ce sera un reportage de Marine Vlaovic. 16 États européens, 16 sur 28 pour renouer avec un peu plus de sérénité et un pré-sommet, on le disait, dédié à la réforme du sauvetage et de l'accueil des réfugiés et du traitement des demandes d'asile. Le président français a juste avant l'ouverture de ce sommet fait tout sauf nier la crise profonde que croisent les institutions européennes, percutées par les drames à répétition en Méditerranée, drames et valeurs fondamentales en berne. Bonsoir Pierre Benazet.
Bonsoir Mathieu.
Pierre, vous êtes en direct de Bruxelles. Ce que l'on sait de la tonalité des échanges?
Ouais, c'était un peu délétère au départ parce que on a entendu Angela Merkel arriver en disant qu'il n'y aurait probablement pas d'accord aujourd'hui. En tout cas, pas d'accord à 16. On sait que ce mini sommet informel aurait dû se tenir à 8. C'était déjà compliqué à 8 et là, toutes les tendances sont représentées. Angela Merkel parle maintenant d'accords bilatéraux entre États au cas par cas. Il faut savoir que, évidemment, les pays comme la France et l'Allemagne qui soutiennent l'adoption, qui soutiennent la mise en place du règlement de Dublin de manière plus stricte ne sont pas suivis par les pays de la Méditerranée qui réclament de la solidarité, c'est ce que l'Italie dit de manière très forte, mais c'est aussi le cas de l'Espagne ou de la Grèce, et que les pays de Visegrad sont finalement représentés aussi par le chancelier d'Europe centrale autrichien Sébastien Kurz, qui est là pour dire qu'il ne peut y avoir de répartition par quota. Bref, chacun tire un peu à hue et à dire.
Pierre, peut-on voir un compromis se dessiner ce soir ?
Alors, il y a une possibilité, peut-être sur le plus petit commun dénominateur, à savoir, d'une part, ces accords bilatéraux d'un État à l'autre dont parlait Angela Merkel, au cas par cas, comme par exemple pour le cas de l'Aquarius, auquel cas il y aurait une collaboration directe d'une capitale à l'autre, et puis peut-être aussi, surtout, sur cette question de sécuriser les frontières extérieures de l'Union européenne. Ça, c'est évidemment ce qu'il y a de plus facile à faire, et on parle beaucoup de ces plateformes de débarquement, ces centres de tri, en quelque sorte, qui seraient installés à l'extérieur de l'UE. On a évoqué la Tunisie ou l'Albanie, pour trier entre les candidats à l'asile et les migrants économiques.
Merci à vous, Pierre Benazet, en direct de Bruxelles. Depuis mardi, dans le sud-ouest de la Syrie, d'importants mouvements de troupes gouvernementales et alliées, d'interminables colonnes de civils qui fuient bombardements aériens, largage de barils d'explosifs et tirs d'artillerie. Avant-hier, sur ce terrain de guerre, entrée en action des bombardiers russes au mépris des textes signés il y a un an. Jusqu'alors, Dera était en effet considérée comme une zone de désescalade. Washington l'a écrit. Washington n'aidera pas l'armée syrienne libre qui compterait 30 000 combattants dans ce sud syrien. Des précisions depuis Beyrouth de Omar Woman.
Déterminé à reprendre le contrôle total de cette province de Dera, berceau de la révolution, le régime syrien et ses alliés multiplient les frappes aériennes depuis mardi dernier. Et cela, malgré les mises en garde de Washington qui déclare suivre de très près la situation. Mais si l'on en croit les rebelles, les États-Unis ne devraient pas intervenir en faveur des insurgés en cas d'assaut de Damas. L'état-major américain se contente pour l'instant de rappeler que cette région, tenue majoritairement par les rebelles, fait partie des zones de désescalade prévues par l'accord d'Astana de mai 2017 et donc en théorie protégée par un cessez-le-feu. Mais cet accord a volé en éclats, notamment après la reprise par le régime syrien de la route orientale en avril dernier. Après cette reconquête, Dera, dans le sud du pays, est devenue logiquement la prochaine cible. Les préparatifs de l'offensive sont achevés, 40 000 soldats syriens sont mobilisés et n'attendent plus que le feu vert de Damas. Face à eux, près de 30 000 rebelles sont prêts au combat. Pour le régime de Bachar el-Assad, cette bataille revêt plusieurs enjeux. Reprendre pied dans le sud du pays, mais surtout sécuriser sa frontière avec la Jordanie, où se trouve le poste de Nassib, entre la Syrie et le royaume hachémite. Pour l'instant, le poste frontière de Nassib est tenu par les rebelles, et ce depuis 2015. C'est pour le régime de Damas un objectif capital qui marquerait le grand retour du régime syrien.
Nous sommes en ligne, comme convenu, avec Fabrice Balanche, agrégé et docteur en géographie, spécialiste de la Syrie. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Fabrice Ballanche, pourquoi le régime syrien convoite-t-il maintenant Deraa ?
Deraa, parce qu'il profite déjà de sa victoire à Damas, hein, il est dans une dynamique de victoire, donc il se jette aujourd'hui sur le sud. Et puis surtout parce qu'il y a eu un accord international sur Deraa, c'est-à-dire que les Russes, les États-Unis, Israël, la Jordanie, aujourd'hui sont d'accord pour que l'armée syrienne revienne dans la région. Le problème pour Israël, c'était la présence de l'Iran, du Hezbollah dans cette zone, et les Russes se portent garant en fait du retrait des forces iraniennes et alliées à plus de 40 km du Golan. Donc par conséquent, eh bien, tout le monde est d'accord pour que l'armée syrienne revienne dans la zone.
Alors, cette zone, elle compterait, on l'a entendu, 30 000 combattants de l'armée syrienne libre regroupés dans cette fameuse coalition du Sud. Quelle résistance peuvent-ils offrir aux troupes gouvernementales et alliées ?
Bah, peu de résistance, parce qu'en fait, déjà, les États-Unis ont retiré leur soutien à cette alliance du Sud en août 2017. Soutien militaire, soutien financier, les Israéliens les aident un petit peu du côté du Golan pour avoir une zone tampon. Mais en fait, l'essentiel de ces combattants, c'est des groupes villageois. Il n'y a aucune organisation, aucune hiérarchie. Ils vont même les uns signer des accords de réconciliation avec le gouvernement syrien pour éviter d'être déportés, comme c'était le cas pour les gens de la Ghouta vers Idlib, ou d'être chassés en Jordanie. Donc l'armée syrienne devrait rencontrer assez peu de résistance, tout du moins dans la partie est de la province de Deraa. Dans la partie ouest, là, on a quand même des gens de Daesh, des gens d'Al-Qaïda, donc ça sera un peu plus difficile. Mais bon, il ne se que quelques milliers, je dirais 80-90% des 30 000 rebelles, c'est en fait des rebelles à temps partiel, peu combatifs, dont il sera assez facile de venir à bout.
À vous écouter, Fabrice Ballanche, c'est une question de moi.
Oui, c'est une question de moi. Bon, je pense que s'il n'y a pas de problème géopolitique international, ça devrait le gouvernement syrien devrait pouvoir reprendre la province d'ici la fin de l'année 2018.
Alors, du sud-ouest syrien, on va passer au nord avec le régime d'Assad qui dit avoir envoyé des patrouilles aux environs de la ville de Manbij. Vous connaissez bien ce secteur, Fabrice Ballanche. Eh bien, est-ce que le régime peut reprendre le nord et du coup chasser d'une certaine manière les combattants kurdes?
Alors, la poche de Manbij, elle fait l'objet de tractations entre la Turquie et les États-Unis. Normalement, il y a un accord avec la Turquie. Les Turcs devraient envoyer des troupes occuper Manbij. Et les troupes kurdes ont normalement évacué la poche. Cependant, lorsque j'étais dans cette région en janvier dernier, tous les témoignages que j'ai recueillis, c'était que les gens veulent le retour de l'État syrien. Ils ne veulent pas appartenir à une zone sécessionniste dirigée par les Kurdes ou voir l'armée turque et leurs alliés de l'armée syrienne libre occuper la ville. Parce que l'armée syrienne libre a laissé un très très mauvais souvenir lorsqu'elle occupait la ville. Elle mettait la ville en coupe réglée. Donc les gens ne veulent pas voir revenir ces gens-là. Ils veulent le retour de l'État syrien. Ils veulent que revivre dans une Syrie unie. Donc évidemment, l'armée syrienne et Bachar el-Assad vont profiter de ce sentiment pour envoyer des troupes occuper au moins une partie de cette poche, parce que notamment la tribu Boubanna, qui habite au sud de la ville, est très favorable à Bachar el-Assad.
Bien, merci infiniment Fabrice Ballanche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes agrégé et docteur en géographie. Les bureaux de vote ont fermé il y a tout juste une heure en Turquie et déjà pleuvent les accusations de fraude électorale. Elles se fondent sur des plaintes adressées aux principaux partis d'opposition. Accusations récurrentes à chaque scrutin où presque les mises en cause s'accumulent. Une délégation d'observateurs de nationalité française, composée d'élus et de cadres du Parti communiste, a d'ailleurs eu droit à quelques mésaventures dans l'est du pays. Géraldine Allot nous appelle d'Istanbul, précisément des locaux du CHP, le Parti social-démocrate de Muharrem İnce, le principal rival de Recep Tayyip Erdogan.
Christine Pruneau et les deux militants communistes français qui l'accompagnaient ont pu quitter à 17h les locaux de la gendarmerie d'Agri où ils étaient retenus depuis la mi-journée. C'est le parti de gauche pro-kurde HDP qui les avait conviés à une mission d'observation citoyenne, mais visiblement les autorités turques ne l'entendaient pas de cette oreille. Mis à part cette courte détention, ce qui préoccupe surtout les partis d'opposition, c'est la fraude et les tentatives d'intimidation dans le sud-est du pays, mais aussi ici à Istanbul. Youssouf Erçias est le vice-président du CHP, le parti social-démocrate à Istanbul.
Nos observateurs dans les bureaux de vote d'Istanbul nous rapportent ici et là des cas d'intimidation et parfois même des agressions physiques à leur encontre. Ça se passe surtout dans les quartiers où l'AKP est arrivée en tête aux dernières élections. Cette fois-ci, le taux de participation y est plus élevé, ce qui pourrait vouloir dire que les électeurs se sont beaucoup mobilisés et ont sans doute voté pour les partis d'opposition.
Tout à l'heure, lors d'une brève allocution à Ankara, Muharrem İnce, le candidat du CHP, s'est adressé aux Turcs. Il leur a dit « N'ayez pas peur, je surveillerai en personne la proclamation des résultats par la haute autorité électorale. Les résultats devraient être rendus publics aux alentours de 22h, heure française. »
Géraldine Allot à Istanbul avec les moyens techniques de Clémence Bonfils. L'armée israélienne annonce avoir tiré un missile du système de défense aérien en direction d'un drone en provenance du territoire syrien sans toutefois l'atteindre. Aucune information sur l'endroit où s'est écrasé le missile de type Patriot. Sur un autre terrain, celui de la frontière avec la bande de Gaza, l'armée israélienne ouvre le feu sur des militants palestiniens impliqués dans la marche du retour. Un Gazaoui, atteint hier par des balles israéliennes, a d'ailleurs succombé à ses blessures ce matin. 135 morts et 3900 blessés depuis le 30 mars dernier. Les Nations Unies craignent le pire, un nouveau conflit ouvert comme en 2014. Les habitants de cette L'enclave de Gaza, sous blocus depuis 10 ans, souffre de détresse psychologique. C'est un reportage de la correspondante de RFI dans les territoires palestiniens, Marine Vlaovic.
Plantée dans la cour de sa maison délabrée de Shejaïa, à l'est de la bande de Gaza, Shadi montre ses bandages à la jambe. Le Palestinien de 28 ans a été touché par les balles israéliennes au cours des manifestations sanglantes de la marche du retour. Mais c'est pour soigner des blessures invisibles que Mohamed Albata, travailleur social, a fait le déplacement.
Moi, mon travail avec cette aide psychologique d'urgence, c'est d'écouter. Ça leur permet de soulager un peu le poids qu'ils ont sur les épaules.
Le programme de santé mentale communautaire de Gaza a mis en place en urgence cette clinique mobile qui rend visite aux blessés et aux familles endeuillées de la marche du retour. Et le premier contact avec Shadi est fructueux. Le maçon au chômage et jeune père de famille évoque à cœur ouvert les raisons qui l'ont conduit à se mettre sous le feu des soldats.
J'étais complètement déprimé et sans espoir. La situation économique est très difficile ici. Je n'ai pas de travail et aucune aide.
Sous blocus israélien et égyptien, la bande de Gaza traverse une crise humanitaire et économique sans précédent. Un terreau pour la dépression ou encore les psychoses. Mais après avoir connu 3 guerres dévastatrices en moins de 10 ans avec Israël, c'est un autre syndrome qui touche une large part de la population gazaoui. Sami Owaïda est pédopsychiatre au programme de santé mentale communautaire de Gaza.
C'est une maladie très connue qui s'appelle le trouble de stress post-traumatique et je peux vous affirmer que 80% de la population de la bande de Gaza présente au moins 1 ou 2 symptômes de ce trouble. Mais ici, et c'est ce que j'appelle le syndrome de Gaza, nous avons des traumatismes en continu, nous ne sommes jamais dans l'après. Chaque nouvelle offensive israélienne anéantit tout notre travail.
Les plus jeunes sont les premières victimes de ces troubles de l'anxiété. Selon une récente étude de l'ONG Save the Children, 95% des enfants gazaouis présente des signes de détresse psychologique, un véritable défi alors que les structures de soins font clairement défaut.
Reportage de Marine Vlaovic. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé vouloir, je cite, identifier 1 milliard d'euros d'économies sur les aides apportées aux entreprises qui s'élèvent à 70-75 milliards actuellement. Le ministre assure que sa main ne tremblera pas. La journée de lundi s'annonce bien ensoleillée sur la majeure partie du pays selon Météo France. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.